Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi,
Jean-Christophe Drouet.
10h09, on est de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Si vous avez raté la première heure, pas de panique, précipitez-vous, pas tout de suite, mais tout à l'heure, sur le podcast, nous avons évoqué La Rochelle, Leinster, c'est la finale de la Champions Cup, croyez-vous au miracle. On a parlé de Victor Wembanyama, qui devrait à 99,9% atterrir aux Spurs de San Antonio la saison prochaine. N'hésitez pas à aller nous réécouter. Toujours avec David Douillet, Marie Martineau, Marc Madio, Christophe Cessieux dans quelques instants. Le bras de fer des GG, l'une des informations de la semaine, c'est Raphaël Nadal qui a annoncé son forfait pour Roland-Garros 2023 qui débute dans une semaine. Allez-vous le regretter? Mais GG, 10h30, un homme en colère, Pierre Amiche, va nous parler du Giro. Pour lui, le Giro, c'est vraiment plus que c'était. Et puis 11h, nous passerons la seconde autour de la billetterie des Jeux Olympiques. Encore une fois, après la deuxième phase, la colère gronde. Le prix des places est-il en train de gâcher la fête? Ce sera notre question. Et puis ne manquez pas votre séquence dans 30 minutes maintenant. Le guet-apens pour les grandes gueules du sport, le fameux débat caché. Les GG, quelle est votre sensation pour vous? Le débat caché, ce serait quoi? Le débat idéal, Marie Martineau.
Deux options, soit on parle du fils de Montpellier et on se pose la question de savoir pourquoi on n'en parle jamais sur RMC de ces nouvelles disciplines alors qu'elles ont rempli leur quota de vente.
On a délocalisé des années de suite à Montpellier.
Ouais, mais ça y est, c'est fini, ça y est, on n'en parle plus. Voilà, donc pourquoi fils. Peut-être la faute agissait parce que c'est tout ton égide qu'on
Ils sont partenaires avec d'autres médias.
Bon ben voilà, en tout cas on parle quand même très peu de BMX, de skate et tout, et c'est très bizarre. Voilà, je me demande si on n'est pas en train d'être vieillissant sur l'antenne des RMC. Ou alors
Je pensais que tu parlais d'Arthur Fils, tu vois, mais non, pas du tout.
Ah non. Non, si, ou alors peut-être qu'on va parler de Maxime Sorel, le premier skipper à avoir atteint l'Everest. Alors je sais pas quel débat on pourrait faire autour de ça, mais voilà, l'Everest des neiges, des mers, parce qu'il a bouclé le Vendée Globe et là il arrive en haut de l'Everest. Voilà.
Ouais, et grimper l'Everest en bateau, c'est vrai que c'est pas évident.
À la voile.
Christophe, ce sera pas ça. Il y en a aucun des deux, c'est pas bon. Mais merci alors, en tout cas d'avoir fait ta pub.
Vous savez que c'est une première. Vous savez que c'est une première depuis l'instauration et l'arrivée de Jean-Christophe Drouet aux commandes des grandes gueules du sport. Nous n'avons pas aujourd'hui, regardez bien le conducteur, nous n'avons aucun débat football.
Oh.
Je me dis, ça ne peut pas rester en état. Oui. Ce n'est pas possible.
Non,
ce n'est pas possible. Ça commence. Il commence à se gratter. Il commence à éternuer. Il se touche les yeux. Il se touche le reste. Et là, je me dis, là, c'est pas possible. Là, il va y avoir. Il y a le ballon qui revient. Il y a le ballon qui titille.
Je vais pas laisser les auditeurs comme ça s'en foutre le matin. C'est peut-être un débat foot, mon cher Christophe. Oh, oui. C'est ta proposition en tout cas.
Bernardo Silva peut-être.
Marc Madio.
Un débat PSG.
Oui.
Mourinho.
Ou Bernardo Silva
qui est pisté par le PSG, Verratti qui pourrait Verratti, partir, c'est pas mal ça, Verratti, ok.
Ou Ira Neymar.
Les minots du PSG, ça c'est pour Max là-haut. Max, notre rédacteur en chef, il rêve qu'on fasse le débat, ça fait 2 ans qu'il nous dit, faites le débat sur les minots, et ben on va le faire.
On verra si c'est Paris Saint-Germain. David Douillet, une petite sensation, une idée?
Moi, je vais t'offrir une belle transition avec Nadal. Moi, je pense que ça pourrait aller en Espagne avec le Real Madrid et les petites déconvenues, le coup de gueule de Benzema, etc. Ça pourrait aller là-bas. Donc, je passe la balle pour enchaîner sur notre ami Nadal qui est espagnol.
Il connaît le conducteur, c'est impeccable. Merci beaucoup, mon cher. David,
de rien.
Le débat caché, ce sera dans 30 minutes. Restez bien avec nous. Il y a peut-être de bonnes propositions, à part toi, Marie, dans l'Assemblée. Tout de suite, les artistes entrent dans l'arène.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Les artistes entrent dans l'arène avec le bras de fer. Le monde du tennis s'était préparé à cette nouvelle. Elle est tombée officiellement jeudi. Sans surprise, Rafael Nadal, toujours blessé, ne défendra pas son titre à Roland-Garros. L'Espagnol, 14 fois vainqueur des internationaux de France, a donc officialisé son forfait lors d'une conférence de presse organisée dans les locaux de son académie à Manacor. L'édition 2023 de Roland-Garros sera donc orpheline de son plus grand champion. Allez-vous le regretter, mes GG? C'est notre question. Dans le coin gauche, la team, oui, je vais le regretter. Christophe Cessieux, David Douillet. Dans le coin droit, la team, je ne vais pas le regretter. Marie Martineau, Marc Madio. C'est parti pour le bras de fer des GG.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
RMC,
les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Et avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste tennis, Eric Salio. Salut Eric.
Salut grande gueule.
Avec le micro, ça va être mieux. Il est là-bas, le micro. Voilà, parce que c'est ta première dans le studio. Bravo.
Et j'ai deux on-off, c'est
suite. Tu pas aidé ce matin, hein, ça va
ouais, ça va très bien, ouais.
Parfait. C'est un Rafa Nadal meurtri, tu le connais bien, qui s'est présenté jeudi devant les médias.
Oui, mais il n'était pas en larmes. Hein. En tout cas, il était 16h02. Jeudi, il avait 2 minutes de retard pour cette conférence de presse suivie par le monde entier, assis sur une table haute, micro en main. Il a rapidement acté son forfait pour Roland-Garros avant de détailler tous les tourments par lesquels il est passé ces derniers mois. En fait, cette blessure contractée le 18 janvier à Melbourne ne l'a jamais lâché.
Moi, j'ai pas envie qu'il arrête là-dessus. J'ai envie de le revoir en bonne santé. Ah,
on va revenir, les copains. Ça, c'est pour tout à l'heure. C'est Richard Gasquet et Fabrice Santoro qui vont évoquer Raphaël Nadal. Je vais t'aider aussi, oui. Parce qu'on n'est pas aidé. Je vais t'aider, mon cher Eric. Raphaël Nadal, en conférence de presse, on l'écoute, ça arrive de loin, ça arrive d'Espagne.
J'ai travaillé autant que possible chaque jour au cours des derniers mois. Je ne suis pas arrivé à trouver de solution au problème que j'ai eu en Australie. Et je suis toujours dans une position où je ne suis pas capable de me sentir moi-même. Je suis encore loin des standards où j'ai l'habitude d'être.
Alors pendant quelques secondes, on a même cru qu'il annoncerait la fin de sa carrière. Mais le Mallorquin a rassuré un peu ses fans en évoquant un long break. La phase finale de la Coupe Davis fin novembre à Malaga peut être un tremplin pour 2024, cela raccourcirait la coupure.
Je ne pense pas que je mérite de finir comme ça, sur une conférence de presse. Je veux me battre pour achever ma carrière sur un court de tennis. Jusqu'au bout, je ferai les efforts, ça a toujours été ma philosophie.
Alors, il espère donc disputer un 116e match aux Internationaux de France et peut-être finir en guerrier sur le court Philippe Châtrier, sa deuxième maison, son jardin, comme vous voulez, lors des JO de Paris 2024. Le tournoi olympique se disputera en 2-7 gagnants. Pour ses jambes de 38 ans, ce sera tout sauf anodin.
Merci beaucoup Eric Salio. Tu restes avec nous pour ce débat. Allez-vous regretter Raphaël Nadal ? Il y a évidemment deux volets, vous l'avez bien compris. Sa décision, donc ce Roland-Garros 2023, ce sera l'objet de notre bras de fer. Et puis dans un second temps, nous allons évoquer l'avenir, forcément, de Raphaël Nadal. Dans le coin gauche, je le disais, oui, je vais le regretter. Il y a Christophe Cessieux, David Douillet. Pour l'instant, vous êtes en tête auprès des auditeurs qui ont voté depuis ce matin sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Oui, nous allons le regretter à 68%. Marc Madio, Marie Martineau, vous êtes derrière. 32%, non, nous allons pas le regretter. C'est à vous de débuter, évidemment.
Allez.
Marie, tu commences.
Bon, pas très surprise par les résultats du sondage, parce que les gens, c'est comme ça, ils supportent pas le changement, ils s'accrochent à leurs références, à tout ce qu'ils ont toujours connu. Alors forcément, ça fait 20 ans qu'on voit Nadal. Mais non, c'est pas trop facile, c'est une évidence. Ça fait 20 ans qu'on voit Nadal à Roland-Garros, donc effectivement, ça peut faire un petit peu peur de se retrouver sans Nadal. Moi, j'ai pas envie de voir un Nadal amoindri, j'ai pas envie que le mec tombe de son piédestal, donc je préfère pas le voir et me laisser le droit de rêver au fait qu'il reviendrait peut-être pour une dernière fois l'année prochaine. Je pense que la dramaturgie peut se jouer ailleurs que sur un match avec Nadal, et c'est déjà le cas. On a déjà vu d'autres matchs qui emportent l'adhésion du public, que ce soit sur place ou à la télévision. Donc j'ai envie de me laisser surprendre. Je vais entamer ce Roland-Garros avec joie, bonne humeur et envie, même si le grand Nadal n'est pas là, et ça n'enlève rien au fait que j'adore Nadal, hein. Je l'ai vu jouer, c'était grandiose, ça restera un des moments sport que j'ai eu la chance de vivre, mais je crois pas que ce soit dramatique qu'on ne voit pas Nadal cette année.
Ok, tu vas pas forcément le regretter, c'est ton avis. J'ai entendu sourire, vous l'avez entendu rire. David Douillet qui va te répondre. David Douillet, oui, on va le regretter.
Mais oui, parce que T'as raison, Marie. On est habitué. Moi, je suis habitué. C'est dans cette période pré-estivale, affalé dans mon canapé, en train de regarder Roland. Tu vois, j'arrive pas à concevoir qu'il soit pas là. Tu vois, je ne peux pas concevoir qu'il soit pas là. Tu vois, ça a commencé l'histoire en 2005, je crois. Il avait 18, 19 ans. Enfin, tu vois, il nous a trop habitué. Puis il nous a habitué à un tennis qui porte son propre style. Très direct, très franc, et il a écrémé tous les leaders qui sont venus le titiller sur cette terre battue au fil des décennies, tu vois. Voilà. Et moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'il soit là pour une raison, qu'il ne soit pas là pour une raison physique. Ça me casse les pieds, parce que j'ai trop peur que ça ne se résolve pas correctement et que et que ça qui termine sa carrière sur une blessure, enfin sur un truc où il peut plus jouer physiquement, ça me casse les pieds. J'aurais aimé avoir une transition.
Tu veux qu'on sorte le paquet de mouchoirs?
Oui, mais oui, ben oui, parce que on est dans l'affect pur là. Moi je me suis attaché à ce joueur. C'est un mec qui est gentil, qui est sympa, qui a toujours respecté ses adversaires, qui a été d'une combativité folle, qui nous a fait passer par des émotions incroyables. Et quelque part, il fait partie de notre famille, la famille de ceux qui nous ont émus devant nos postes de télé. Voilà. Et tu peux pas,
moi,
tu peux pas
pense...
le balayer comme ça. Tu peux pas le balayer comme
ça. Non, mais personne ne balaye personne.
Moi, j'ai envie de renouveau, etc. Comme quand tu changes de produit, de vaisselle ou de paquet de gâteaux. Non, c'est pas vrai. On est habitué à ce parfum de Nadal et s'il est pas là, ça va manquer. C'est clairement, ça va manquer. Voilà, moi j'aurais aimé qu'il perde face à un jeune, mais qu'il perde avec beaucoup de panache, beaucoup de d'abnégation et puis transmettre ce témoin. Moi j'adore ça. Ah mais non, c'est pas l'ange déchu, pas du tout. C'est transmission de témoin. Vas-y mon vieux, t'as 18 ans, tu m'as battu, c'est l'âge où j'ai gagné Roland Garros.
Mais voilà, il peut ça, plus c'est marcher.
Bon. Ah, une finale Alcaraz Nadal, vous auriez pas signé tout de suite pour une finale Alcaraz Nadal?
Bien sûr.
Alcaraz avec un Nadal qui boite,
l'ancienne génération espagnole et le nouveau numéro 1, ça aurait été magnifique. Moi, c'est ce que j'aurais aimé voulu voir à Roland Garros. Et je sais toi Marc que tu as pleuré quand le grand Lance Armstrong a quitté le monde du vélo. Aujourd'hui, tu ne crois pas pour le tennis, mais tu pleurais pour le vélo.
Non, mais moi, je pas me faire que des copains. Mais c'est une libération pour le tournoi de Roland-Garros que de ne plus avoir Nadal. C'est une libération. Pourquoi, je vais vous le dire, tout simplement, parce que ces dernières années, il y avait toujours des polémiques autour du « il est blessé, mais il peut se soigner, il peut pas se soigner » et tout. Là, on est libéré.
Libéré, martyrisé, mais libéré.
Non, mais t'as le droit de pas l'aimer, Marc. T'as le droit de pas aimer Nadal.
Alors, quand Federer est parti, toi, t'étais quoi? Toi, en revanche, tu faisais la tête. T'es pas pour Nadal.
Alors,
ok, on a compris, t'es comme Stephen Brun. Mais quand même, ce mec, il est indissociable de ce tournoi. Il est là depuis 2005, il a gagné.
Ça va faire un bien énorme dans l'histoire du tennis.
C'est le garçon qui a le plus gagné un tournoi majeur de tennis. Et donc pour moi, j'avais l'impression qu'il était immortel.
Le problème, c'est que ça se situe aussi au niveau du tournoi. Si c'est toujours le même qui gagne 25 fois d'affilée.
On n'en est pas là à revoir la qualité du tennis que nous ont proposé les trois géants depuis 20 ans. Je pense qu'on a atteint le summum de ce que le sport.
Tu vois, pour moi, Roland Garros cette année va être fantastique. Va être fantastique à suivre et à regarder.
Moi, je vais pas regarder, moi.
Mais non, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas de dire est-ce que Roland Garros va être fantastique cette année. Non, le sujet, c'est de dire est-ce que ça vous fait de la peine si Rafael Nadal n'est pas là. Moi, je dis oui, clairement.
Moi, je veux
clairement
voir.
Parce que qu'il me manque. Voilà, et c'est normal. Mais Marc, j'ai envie de te laisser la parole parce que tu t'enterres grave en disant ça.
Mais non,
vas-y, on va gagner le bras de fer.
Il quitte le Giro, il a pris un peu trop d'eau sur la tête là pendant une semaine. Là. Ou alors c'est peut-être un effet du Covid, mais c'est bizarre aujourd'hui.
Non, mais c'est les chauds et froids entre les altitudes.
On parlera du Giro dans 10 minutes, rassurez-vous, avec notre homme en colère, c'est Pierre Amiche. Éric Salio, tu peux entrer dans la danse. Sans Rafael Nadal, déjà...
Ça dépend de quel côté il est. Moi, je veux bien qu'il rentre dans la danse, mais...
Déjà, est-ce que toi, personnellement,
il va forcément nous faire du politiquement correct?
Mais non,
Rafael Nadal, attendez, laissez-moi le bénéfice du doute.
Que le tenant du titre puisse pas défendre sa couronne, quand même. C'est le premier constat que je fais.
Ah voilà, tu nous fais du politiquement correct.
Voilà.
Bravo.
Non, mais c'est vrai. Maintenant, on peut être. Moi, je vais vous dire une chose. On n'a jamais su que Federer avait disputé son dernier match contre Hurkacz à Wimbledon. On n'a jamais su tout de suite. Ça se trouve, Nadal, il a disputé le dernier match de sa carrière contre Mackenzie McDonald le 17 janvier à Melbourne. Et voilà, on le reverra peut-être plus, Marc. C'est pas un problème pour toi.
C'est l'ordre des choses. Enfin, les gars, les athlètes de niveau,
on le sait même pas, quoi.
Ah bah alors ça, le fait que sa sortie, elle soit pas jolie, si effectivement c'est une sortie.
Niveau, c'est des idoles, c'est des légendes, ces gens-là. Ils doivent avoir une sortie différente de ceux qui passent.
Mais il a choisi sa sortie.
Un ou deux tournois.
Non, il l'a choisi pas parce qu'il est blessé.
Arrêtez, il était déjà blessé l'année dernière, ça fait toute une polémique.
Mais oui, mais il l'a choisi pas. Enfin, arrêtez,
on lui enfile des trucs dans les pieds et tout pour qu'il puisse seulement se déplacer, tu vois. C'est lui qui a choisi de faire tirer le truc jusqu'au bout. Alors si c'est effectivement, on aurait vu le dernier match de Nadal il y a quelques temps, j'ai envie de dire, désolé, mais tant pis. Enfin, c'est comme ça, c'est ses choix. C'est lui qui a décidé de jouer cette carte-là jusqu'au bout, tu vois. C'est dingue de ne pas réussir à partir.
Ce qui est sûr, c'est que depuis quelques années, son corps envoyait des clignotants rouges partout.
Mais
à un moment, ça pète.
Comme tous les athlètes, c'est normal. Il n'y a pas de sujet.
On va écouter justement Richard Gasquet et Fabrice Santoro à propos de ce forfait de Rafael Nadal, mais aussi de la suite, hein, parce que vous commencez à en parler.
Moi, j'ai pas envie qu'il arrête là-dessus. J'ai envie de le revoir en bonne santé. Alors pour quelques tournois peut-être. Je dis pas qu'il va repartir pour 3 ans, mais j'aimerais bien voir Rafa, et on aimerait tous voir Rafa disputer encore quelques grands tournois.
Je pense qu'il vit des moments compliqués, mais malgré ça, comme il a dit, il veut pas finir sur une conférence de presse. Donc je sais qu'il reviendra. Après, il mérite d'être sur le court à nouveau et de se faire plaisir, et surtout que les gens le revoient encore et encore. Et j'espère en tout cas qu'il va pouvoir se soigner du mieux possible pour revenir.
Non mais bien sûr, mais ils peuvent pas dire autre chose. Ils vont pas dire le contraire. Moi, j'aimerais bien revoir Alesi conduire une Formule 1. J'aimerais bien voir Michael Jordan refaire des dunks. Enfin, évidemment, oui. Non mais on va chercher des gens pour leur faire dire un truc qui est tellement une évidence.
Tu peux aussi sortir de terre le baron de Coubertin. Non mais là, on te parle d'un champion qui a gagné Roland Garros l'année dernière, Marie. C'est pas la même chose.
Mais il est blessé. Enfin, je veux dire, voilà, c'est tout. Point.
Il est blessé, mais on peut aussi. Alors, au-delà de ce tournant,
on sait qu'il arrive au bout.
On peut aussi avoir envie qu'il termine magnifiquement sa carrière. On parle des Jeux Olympiques. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse une dernière fois, même s'il ne gagne pas, une dernière fois Roland Garros. J'ai envie de le voir une dernière fois.
Mais peut-être tu le reverras l'année prochaine. En attendant, moi, j'ai envie de voir Roland Garros. J'ai envie de voir ce que fait Rude. J'ai envie de voir ce que font les autres, tu vois. Et parce que la nature a horreur du vide, il y aura d'autres champions, il y aura des beaux matchs. Eric Salio va se régaler cette année à Roland Garros, comme d'habitude.
Mais j'en doute pas. Mais c'est pas ça le sujet.
Il va y avoir de l'intérêt.
Mais si, ça fait partie du sujet. Mais
il va y avoir de l'intérêt.
Moi, je pense aussi à Marc Maury qui avait sa présentation du tournoi quand il est égrené toutes les victoires de Rafa. Moi, je l'ai vu hier à
le speaker de Roland Garros.
Tu nous parles
de Marc Maury. On l'adore, mais ça n'a rien à voir avec le
Il est à deux doigts de mettre sa fiche à la poubelle.
Ok, il parle des copains. Merci beaucoup, Eric Salio. Super. Un dernier mot personnel, merci. David Douillet, sur la suite, tu veux le voir finir où ? À Roland Garros l'année prochaine ?
Oui.
Ou le laisser pousser jusqu'au JO parce que ce sera aussi à Roland Garros.
Finir sur un court de Roland Garros.
Moi, je veux le voir aller au bout de son rêve. Voilà, son rêve, il n'est pas terminé. La preuve, puisqu'il est peiné de sa blessure. Il a fait une conférence. Oui, non, mais si, il faut qu'il aille au bout de son histoire. Et peu importe que ce soit une victoire ou une défaite, ça, je m'en fous. Mais moi, je veux voir, quand un athlète va au bout de son chemin, c'est ça le plus important. Et si son chemin, le bout de son chemin, c'est une blessure, je pense que le garçon sera déçu.
Mais on le sera tous.
Et nous, on sera aussi.
C'est son choix. Voilà. Il aurait pu dire à la fin de Roland Garros l'année dernière, partir avec le panache en disant, je suis allé au bout de moi-même, j'ai fini, j'étais une belle carrière, merci, salut, l'année prochaine.
Il n'est pas dans sa tête et il n'a pas fini dans sa tête. Voilà, c'est tout. Et peut-être que ça, la fin pour lui, ce sera justement de perdre. Et ce sera très bien. Et c'est pas grave. Mais au moins, parce que c'est un pur compétiteur. Voilà. Et il ira, je pense, jusqu'au bout. Et il a raison. Voilà. Et tu peux pas avoir marqué Roland Garros comme ça sans être peiné de ne pas le voir cette année. Moi, c'est ça, en fait, la question. Moi, je suis peiné de pas le voir. Un gars qui a gagné 14 fois Roland Garros sur 22 éditions. Enfin, c'est monumental. Voilà. Et ça me fait de la peine de pas le voir, il va manquer, c'est sûr.
Qu'il gagne ou qu'il perde, sur un terrain, on a bien compris votre sensation. Le résultat, les votes sont clos dans ce bras de fer des GG. Allez-vous regretter Rafael Nadal pour ce Roland Garros 2023 ? Nous terminons, nous avons débuté à 68-32, nous terminons à 69-31. Nous allons le regretter. C'est une victoire de David Douillet.
Très surprenant.
Petite progression.
C'est sûr.
Vous repasserez la semaine prochaine ou alors vous irez chercher le chèque en partant là.
Et on se retrouve dans quelques instants pour un homme en colère. Pierre Amiche, il va nous parler du Giro. Il ne reconnaît plus son Giro. Et il va nous parler aussi de Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, deuxième hier, est très en colère. A tout de suite sur RMC, on en parlera avec Marc Madiou.
Jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h32, on est de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi avec Marc Madiot, David Douillet, Marie Martineau, Christophe Cessieux ce matin. Restez bien avec nous. Dans 10 minutes, ce sera le fameux débat caché. Je vous ai concocté quelque chose aux petits oignons, mes chers GG. Vous m'avez fait des propositions à 10h. Vous êtes totalement à côté de la plaque. Je préfère vous le dire. Mais tout de suite, comme tous les samedis et dimanches à 10h30, on fait entrer Pierre Biche.
RMC, l'homme en colère.
Mais pourquoi est-il aussi méchant ?
Pierre Amiche, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors pourquoi en colère aujourd'hui ?
Eh ben cette semaine, je suis un homme en colère. En fait, ce matin, je voulais parler du Giro, mais non, j'ai plus envie, en fait. Non, déconnez, mais faire ça à moi, le jour de mon anniversaire, mais quelle indignité. Moi, je m'étais chauffé, c'était l'étape Rennes. 199 bornes, 3 ascensions, des descentes de gravel dans des cailloux, des montées à 128%, un temps dégueulasse, que même quand tu regardes la télé, t'es mouillé. C'était beau, c'était la guerre, c'était Verdun. C'était une course pour Thibaut Pinot, ça devait être la folie totale de 11h à 17h, 6h de torture et à la fin, c'est celui qui est pas mort qui a gagné. C'est ça, le vélo, c'est défier la pente, les éléments, la raison et les petites gouttes d'eau. Ah, c'est un sport d'extérieur, il pleut, gna gna gna, mais ça me saoule! Seulement, des petits malins ont niqué ma journée. Les coureurs d'abord qui jeudi soir ont décidé de voter le fait qu'il fallait raccourcir l'étape, raison invoquée, la dangerosité supposée de la route. Le CPA, le syndicat des coureurs, a évoqué son droit le plus strict, celui de faire grève en gros. Pour clarifier le point de vue des coureurs, dit Hansen, le patron, les conditions météorologiques rencontrées lors du Giro de cette année ont été parmi les plus intenses. Selon le règlement qui définit la pluie verglaçante comme point 1 et les températures extrêmes comme point 4 sur certaines parties du parcours d'aujourd'hui, les coureurs ont accepté de voter et avec plus de 90% des coureurs qui ont voté pour, le CPA et moi-même avons soutenu cette décision de raboter l'étape. Résultat, 125 km de retiré, l'ascension et la descente du Grand Saint-Bernard, alors que j'adore les Saint-Bernards, et une course de nains, 74 km, zéro attaque. Si, évidemment, celle merveilleuse, pleine de panache du phénix de Mélisée, le futur ex-grande des Jugadors, du seul de l'unique Thibaut Pinot. Mais on va y revenir. Alors la raison invoquée, c'est qu'il fait pas beau. Et j'avoue que le Giro 2023, c'est plus du cyclisme, hein, c'est du pédalo. Les mecs sont sous la pluie depuis 17 jours. On dirait que l'Italie, c'est les Philippines pendant la mousson. Hein. Il fait 8 degrés, la moitié du peloton a le Covid, l'autre moitié a la peur de l'avoir. Même plus besoin de tête antidopage. Si t'as pas la goutte au nez, c'est que t'es chargé. Alors oui, je sais, c'est la théorie du canapé. Je suis chez moi, la main dans le falzar, en train de me dire que c'est abusé de me faire ça. Mais trois choses. Hein. Vu mon IMC, si je monte sur un vélo, le pauvre, je décède après moins de 16 km. Je le sais, pas la peine de me demander si je fais du vélo. Oui, du vélo, mais pas du cyclisme. Deux, je comprends l'argument du danger et je trouve cet argument entièrement acceptable. Mais hier, la vraie raison, c'est pas le danger. La preuve, c'est qu'on a supprimé la descente la moins dangereuse pour laisser la descente de la mort de Croix de Cœur. Et la sécurité, la sécurité, la sécurité, mon cul. Hein, la vraie raison, c'est que le parcours est trop dur, les coureurs sont trop fatigués, les conditions depuis le départ trop pénibles. Et trois, je suis pas le seul à le penser. Et malgré 90% des mecs qui ont dit que c'était trop difficile et que je respecte, en dépit du fait qu'ils ont saccagé mon anniversaire, il y a pire. Il me force à être d'accord avec Gianni Moscon, l'un des plus gros mongoliens du peloton. Hein, il dit, c'est vrai qu'il fait mauvais, c'est sûr qu'on est fatigué, mais pour moi, on aurait pu courir sur la totalité du parcours ce vendredi. Si quelqu'un voulait abandonner, il a qu'à le faire. Personne ne les a obligés à faire cycliste comme métier. C'est pas faux. Ben ouais, les cocos. Hey, le vélo, c'est dur. Et je regrette pas l'époque des morts, des accidents dramatiques, des cyclistes chargés comme des mules qui dévalaient les routes flinguées en espérant pas mourir. Je me demande juste si dans un passé récent, cette étape aurait pas touché du doigt la légende. Celle qu'on raconte avec les yeux pleins d'étoiles. Liège-Bastogne-Liège 80 ou Roubaix 2021, Kreuzberg dans un mur de glace en 2016 ou Charlie Gaulle 58 qui gagne le Tour sous la pluie et le Giro sous la neige. Si dès qu'il mouille, dès qu'il caille, on fait grève, ça va vite limiter les courses. Et faudrait les faire sur Swift, hein. Là on est sûr que ça roule. Et quand Guérin Thomas dit, eh ben heureusement, sinon on arrive à 40 à Rome. Juste pour rappel, là encore historique, en 86, il y a 78 mecs qui n'ont pas vu l'arrivée du Tour de France. Ça arrive, hein. Et s'il y avait moins d'équipiers, il y aurait peut-être plus de spectacles. Alors oui, je sais, on peut faire des trucs trop durs, trop longs, trop froids, c'est peut-être poussé à la triche quelque part. Mais que les mecs transitent froid et de peur depuis 15 jours, finalement le Giro, c'est une mascarade, c'est pourri. Il y a que le suspense qui sauve le Giro. Il y a pas une attaque, pas une tentative, pas une grande manœuvre. Tout le monde réfléchit en se disant que ah ouais, mais demain c'est compliqué. Avoir le maillot rose, est-ce que c'est vraiment un bon calcul ? Les courses, ça devient un bras de fer de comptable. Et là, à la fin en plus, bah Thibaut Pinot, il fait deuxième. Parce que oui, Pinot, point d'orgue de cette journée catastrophique, sa tête de guerrier et ses jambes de grand jour, il va mettre 128 attaques dans la dernière ascension. Et évidemment, il se fait contrer à 400 mètres de la ligne par un suceur de roue d'un mec qui a pas pris un relais dans les 19 derniers kilomètres. Perdant héroïque, il vient buter à la deuxième place. Antoine Blondin écrit, qui sait si nous ne serons pas comptables de toutes les joies que nous nous sommes refusées, de tous les chemins que nous n'aurons pas suivis, de tous les verres que nous n'aurons pas bu. J'espère que les coureurs battus à Rome ne regretteront pas cette occasion, peut-être manquée, de gagner le Giro. Et celle, à coup sûr ratée, de marquer les histoires des forçats de la route. Ce terme d'ailleurs avait été inventé par Albert Londres en 24 qui recueillait le témoignage de Henri Pélissier abandonnant le Tour. Ce dernier immense coureur dénonçait le traitement réservé aux coureurs. Je cite un passage de l'article. « Ce que nous ne ferions pas faire à des mulets, nous le faisons. » Nous ne sommes pas des fainéants, mais nom de Dieu qu'on ne nous embête pas. Nous acceptons le tourment, nous ne voulons pas de vexation. Je m'appelle Pélissier et pas Azor. Un jour viendra où l'on mettra du plomb dans les poches parce que l'on trouvera que Dieu a fait l'homme trop léger. Si l'on continue sur cette pente, il n'y aura bientôt plus que des clochards et plus aucun artiste. Le sport devient fou furieux. Cet article fera entrer Albert Londres et Henri Pélissier dans la légende. Je ne suis pas certain que les coureurs de ce Giro y soient un jour.
Merci beaucoup Pierre Amiche pour cet homme en colère. À vous de trancher les GG. Est-ce que vous aussi vous êtes en colère après cette mascarade hier, mais peut-être surtout ce Giro 2023. En colère, pas en colère, Christophe Cessieux.
Oui, un peu en colère. Ouais.
David Douillet.
Non, pas trop.
Marie Martineau.
J'arrive pas à trancher, pas pour les mêmes raisons que Pierre. On va en débattre, mais je peux pas te dire en colère ou pas. J'observe des choses.
Marc Madio.
Moi, je suis en admiration de ce que je viens d'entendre.
Donc de la part de Pierre. Tu changes pas une virgule.
Ah non, pas une virgule.
Ok. Christophe Cessieux, pourquoi plutôt en colère?
Ouais, alors je suis assez divisé sur le sujet parce que d'un côté on aime ce sport pour son caractère implacable, c'est quand même la seule discipline où qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, bah les coureurs ont l'habitude de faire la course. On n'est pas dans un sport de préau, on n'est pas dans un sport où on s'arrête au moindre coup de vent. Non, on y va, on fonce, on est dans la légende du vélo, la légende des forçats de la route. Alors il y a eu des exceptions, évidemment, dans l'histoire. Il y a eu des courses qui ont été raccourcies, des courses qui ont été arrêtées. J'ai un souvenir d'eux qui se passent quasiment au même endroit. La première, c'est 96, où le peloton du Tour de France passe le col de l'Iseran en voiture. Marc, qui n'était pas encore directeur sportif à l'époque, parce qu'il neigeait. Il neigeait en plein juillet au col de l'Iseran. Marie, tu sais où c'est quand même très haut et c'est très froid.
À picote, hein.
Et puis, plus récemment, en 2019, évidemment, dans la descente, là aussi qui venait de l'Iseran, en descendant après Val d'Isère, ces trompes d'eau qui ont fait que la
même,
course a été arrêtée parce qu'il y avait un torrent d'eau qui dévalait sur la route. Donc, là, c'est des cas de force majeure. T'es obligé d'arrêter la course. Mais hier, il n'y avait aucun cas de force majeure qui faisait qu'il aurait fallu raccourcir la course. La route ne s'était pas effondrée. Il n'y avait pas d'éboulis sur la route. Il n'y avait pas de fleuve sur la route. Il ne pleuvait pas vraiment. En plus, hier, c'est quasiment l'une des journées où il a le moins plu sur le Giro. Donc, je ne suis pas d'accord pour qu'on raccourcisse des étapes, pour qu'on essaye d'avoir le plus grand nombre de coureurs à l'arrivée. Ça fait partie de la course. Si t'es pas bien, si t'es malade, si t'es pas content, bah, tu quittes la course et tu vas faire autre chose, quoi.
Tu vois, c'est là où je peux pas te laisser
dire ça. C'est le vélo.
Non, mais c'est pas le vélo, c'est tous les sports outdoor.
C'est le vélo.
Moi, je me dis quand même, et je laisserai la parole à Marc parce qu'il est quand même certainement plus au point là-dessus, mais je me pose quand même la question, si 80 ou 90% des athlètes du peloton votent pour le raccourcissement de l'étape, alors c'est peut-être pas parce que c'était dangereux, mais il y a certainement une raison, et certainement une bonne raison, parce qu'il faut arrêter les mecs, certainement. Voilà, tu vois, donc allons chercher la bonne raison, mais s'ils le font, c'est qu'il y a une bonne raison. Et moi, je suis quand même ravie qu'on puisse leur donner la parole et suivre les choix qu'ils font, parce que ce ne sont pas des tirs au flanc, ce ne sont pas des fainéants, ce ne sont pas des gens qui ont peur du danger, de la descente ou je ne sais quoi. Enfin, ce sont d'énormes athlètes. Le vélo, c'est un sacerdoce, quoi. J'ai tellement de respect pour ces gars-là. Donc faisons-leur quand même confiance.
T'as beaucoup de respect,
quoi.
Mais tu voudrais changer l'âme de ce sport, en gros.
Ben non, mais je me dis, et Marc est là pour en témoigner, il y a sûrement une bonne raison.
Ok, Marc, dans quelques instants, juste, David Douillet, toi, tu n'étais pas forcément en colère.
Non, parce que après, enfin, tout sur la dureté du parcours, pourquoi les coureurs décident de manifester, etc., etc. Je suis pas très pertinent. Par contre, il y a un truc qui me gave, et ça me gave déjà depuis longtemps. C'est ce qu'a dit Pierre en fin de chronique sur le type qui te suce la roue et qui te passe à la... ça me gave. Voilà, je sais pas. Je trouve ça. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment le truc. Autant il y a pendant la course, enfin quand on est loin de l'arrivée, tu te mets à couvert, tu te protèges, tu récupères, etc. Ça fait partie de la tactique de la course. Mais je sais pas, faudrait peut-être, enfin je lance une idée, Marc, tu me diras si c'est une connerie ou pas, mais je me dis que à partir d'un certain kilomètre avant l'arrivée, on devrait plus avoir le droit de se foutre derrière l'autre et attendre que ça se passe en se préservant et en le niquant à quelques encablures de l'arrivée. Ça me saoule.
Très bien. ça reste...
Dis monsieur le ministre.
Si, ça reste un gros mot. Voilà. Bah attends, pour aller dans...
Ça dépend. Bref, en tout cas, voilà, je ne sais pas, peut-être qu'à partir du 10e kilomètre ou du 15e kilomètre, on ne devrait plus autoriser ça, de se mettre derrière l'autre, que les mecs se décalent pour qu'ils prennent tous le vent de face et que le meilleur gagne sur les dernières encablures. Peut-être que ça serait un peu plus juste. Parce que sinon, c'est rageant, quoi.
Ok, bah justement, Marc va répondre là-dessus. On va écouter Thibaut Pinot, qui lui aussi était très en colère, comme toi, David, avec cette deuxième place, si l'on veut, à ses deux compagnons d'aventure, Rubio et Cepeda. On l'écoute.
Grosse déception. Ils en ont profité, ils savent que je suis généreux dans l'effort, trop généreux dans l'effort. Moi, je calcule pas mes efforts, eux, ils ont fait que ça, donc je comprends pas. Comment on peut espérer gagner de cette manière? J'arrive pas à comprendre, c'est pas ma vision. Après, il avait peut-être ses consignes, j'en sais rien, mais quand son excuse est classement général avec Carty, moi, je peux pas la comprendre. Donc, si moi je roule pas, on fait du surplace et ils nous reprennent. Mais donc, j'espère au moins qu'ils vont me remercier d'avoir pu jouer à la victoire parce que. Bref,
dégoûté. Thibaut Pinot. Deux choses alors. Déjà le Giro et après sur Thibaut Pinot.
Le Giro, pour moi, on fait une nouvelle faute. Le cyclisme, c'est un sport où on va au bout de ce que l'on est. En répétant les actions comme celle d'hier, on est en train de détruire notre sport. Alors, je vais faire sortir une boutade de Daniel Mangias qui dit souvent... ses commentaires sur les lignes d'arrivée, on n'est pas à Roland-Garros, on ne met pas la bâche. Le cyclisme en ce moment est en train de mettre la bâche. On est en train de renier ce que nous étions. Je parle presque au passé parce que Bernard Hinault en 80, Lies Bastogne-Liège, c'est fini, ça ne se reproduira plus parce qu'on ne prendra plus le départ. Le Gavia, il y a quelques années, j'y étais. Je me suis dit ce jour-là, je ne me remettrai jamais dans cet état où je me suis mis. J'ai mis 2 heures à rentrer dans la douche. Je ne savais plus où j'étais dans la descente du Gavia. Je me suis maudit. Je me suis dit, je ne me remettrai jamais dans cet état-là. Mais aujourd'hui, plusieurs dizaines d'années après, je suis fier, extrêmement fier d'avoir été au Gavia. Je suis désolé, mais bon nombre de coureurs aujourd'hui ne pourront jamais dire ça de leur carrière. Et ça, c'est dommage, parce qu'ils sont en train de perdre le fil de ce qu'est l'histoire de notre sport. Ce que disait Pierre tout à l'heure par rapport à Pélissier, ce qu'on a pu entendre sur les légendes d'Eddy Merckx, sur les morceaux de bravoure d'Ocaña, sur et j'ai du mal à trouver les mêmes choses sur ces dernières années.
Il n'y a plus de vrais coureurs ?
C'est pas qu'il n'y a plus de vrais coureurs. Il y a des coureurs aujourd'hui qui se font mal, qui s'entraînent, qui vont au-delà de leurs propres limites physiques avec un capteur de puissance, mais on est en train de perdre le côté historique de notre sport. Le cyclisme, c'est quelque chose que l'on fait et que les autres ne peuvent pas faire. S'il y a des gens sur le bord de la route et si notre sport a une telle histoire, c'est parce qu'il y a eu ces moments, c'est parce qu'il y a eu ces moments de transformation, c'est des moments où ça semble inaccessible.
Mais alors, tu ne jettes absolument pas la pierre aux organisateurs, aux gens qui décident des tracés. Tu ne veux pas tout remettre en question le fait que le tracé cette année est trop difficile.
Non.
Alors, ils sont tous là en se disant, c'est trop difficile, non, on pédale pas parce que demain, ça, on va se faire redémonter, c'est compliqué après.
Moi, je parle d'un autre principe. On n'est pas obligé d'être coureur cycliste. On n'est pas. Non, c'est important. On n'est pas obligé d'être coureur cycliste. On a le droit d'abandonner. En 1980, quand Bernard Hinault gagne Liège-Bastogne-Liège, il y a 20 coureurs à l'arrivée. Personne n'a blâmé ceux qui ont abandonné. Personne. Donc, on a le droit d'abandonner. On a le droit de succomber à la fatigue, au froid et tout ce que vous voudrez. C'est pas un problème. Mais on rend grand notre sport quand on va dans ces limites-là.
Ok, alors est-ce qu'il n'y a pas des consignes ? Alors est-ce qu'il n'y a pas des consignes des chefs d'écurie comme toi de dire on ne veut pas que vous abandonniez ?
Moi, j'ai pas voté, moi. Mais si on m'avait demandé de voter, j'aurais dit on fait la course.
Ouais, c'est ça. Mais est-ce que c'est possible qu'il y ait des consignes ?
Est-ce que je perde plusieurs coureurs ?
Pour dire les gars, faut qu'on aille au bout.
Mais c'est la grandeur de notre sport. On a un truc.
Ouais, mais.
On a un sport unique. On a un sport fantastique. On a un sport fantastique qui fait appel à quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et on est en train de le perdre. On est en train de le perdre. Pourquoi il y a des gens sur le bord de la route? Pourquoi il y a des gens qui se lèvent à 4 ou 5 heures du matin pour aller au sommet du Tourmalet? Pour, ils veulent saisir, ils veulent voir quelque chose que l'on ne voit nulle part ailleurs. Et si on enlève ça, bah on devient un sport aseptisé. Et comme dit Mangas, on met la bâche.
Okay.
Et là, on n'est pas bon.
On en reparle demain. Marc, avec toi, si tu veux bien, tu seras également dans les GG. On reparlera de ce Giro parce que c'est très intéressant. 10h47, le débat caché dans quelques instants. Restez bien avec nous.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport. RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi,
Jean-Christophe Drouet.
10h51, de retour dans les grandes gueules du sport. À partir de 11h, il y aura ce débat autour de la billetterie des JO. Est-elle en train de gâcher la fête? On vous donnera toutes les dernières informations. Toujours avec Christophe Cessieux, Marc Madiot, Marie Martineau, David Douillet. Et tout de suite, c'est le débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Et pour vous, mes GG, votre débat caché, vous ne savez rien, il va falloir débattre. Le débat caché, aujourd'hui, c'est ça.
Teddy Riner qui est contré ! Teddy Riner qui est contré ! Est-ce que Teddy Riner est battu ? L'arbitre n'a rien dit ! T'as soif qui est passé dans le dos ! T'as soif qui est passé dans le dos ! Est-ce que Riner va être battu ? Est-ce qu'on va donner une marque ? Va y avoir vidéo, à mon avis, Riner est battu. Pour la 10e fois du match, t'as soif, attends, t'as un contre. Là, il l'a réussi. Et non, l'arbitre ne dit, l'arbitre fait repartir le combat. Oh là là, Riner qui est en sursis. Est-ce que l'arbitre avait dit Maté? Oh là là, l'arbitre avait dû dire Maté. C'est pas fini. Riner qui gère Tassouev dans son Shimigashi Wazari. La 11e, le numéro 11, Teddy Riner, champion du monde pour la 11e fois. L'empereur est de retour. Il est là. Teddy Riner, le clan français exulte avec sa technique fétiche.
Teddy Riner aurait-il dû être sacré champion du monde pour la 11e fois pour la Fédération internationale de judo? C'est non. Cette semaine, via un communiqué, elle a reconnu une erreur d'arbitrage lors du Golden Score de la finale des plus de 100 kilos entre le champion français et le russe Inal Tassoev, la commission d'arbitrage de la Fédération, qui s'excuse profondément pour sa décision et informe que ce type d'action sera récompensé à l'avenir conformément aux règles actuelles du judo. Communiqué surprenant qui a mis en colère notre grande gueule, Cyril Marais, ancien lourd de notre équipe de France. Salut Cyril.
Salut à tous, salut les GG.
Salut Cyril.
Salut Cyril. À toi de convaincre les GG. Pourquoi es-tu en colère?
Non, je suis en colère et je trouve ça complètement scandaleux, un tel communiqué. Voilà, je m'explique. En fait, après chaque Olympiade, en fait, la Fédération internationale de judo propose d'améliorer le règlement, dans un premier temps pour la sécurité et la santé des athlètes, mais aussi pour essayer de rendre le judo un peu plus télévisuel. Dans le règlement, en fait, de l'Olympiade 2022-2024, en fait, il y a la décision numéro 5, qui concerne en fait les contre-attaques en jetant dans le dos de l'adversaire sans crocheter la jambe et sans rester en appui. Ces choses-là ne seront plus comptabilisées comme valeur. Alors c'est exactement ce qui s'est passé sur Teddy. Voilà, il y a aucun débat là-dessus. En fait, si vous voulez, en fait, pour vous expliquer, en gros, avant le 28 janvier 2022, Teddy il aurait perdu cette finale. Oui, ça c'est certain. Ça aurait marqué Hippon même parce qu'il l'a bien fait rouler sur le dos. En fait, aujourd'hui avec le nouveau règlement, en fait, le contre du Russe il compte pas. En fait, il y a aucune erreur d'arbitrage. Et moi, ça m'agace parce qu'aujourd'hui, en fait, ça a été regardé au niveau des écrans. Enfin, ça a été regardé à la table centrale. Ils sont venus voir. Ils ont dit effectivement, c'est un gâchis. On a changé le règlement. C'est pour favoriser en fait les attaques, les adversaires. Maintenant, en fait, les judokas maintenant, c'est pour essayer de promouvoir un maximum de judo et aller plus sur l'attaque sans prendre de risques. Enfin, faut savoir aussi que Teddy, il a connaissance de ce règlement et il n'aurait certainement pas attaqué. Je veux dire comme ça, s'il avait une infime chance de se faire contrer, sachant que sur les mains, il est en train de détruire son adversaire. Enfin, voilà, il aurait pu prendre la troisième pénalité. Bon, il l'a fait tomber par la suite. Mais voilà, en fait, pour ma part, en fait, c'est ce que je voulais expliquer aussi, c'est que moi, quelque part, j'ai gagné énormément de combats avec des gaichis. C'est aujourd'hui dans le règlement, voilà. Que ça plaise ou non, malheureusement, c'est un règlement.
Mais pourquoi puis, la Fédé fait ce communiqué alors en s'excusant de cette erreur d'arbitrage si c'est dans le règlement?
Je sais pas en fait. C'est ça que j'arrive pas à comprendre aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie problématique avec ça. Et enfin moi aujourd'hui j'ai du mal à reconnaître mon sport et je pense que même eux aujourd'hui en fait à travers ça, ils ont des vraies difficultés. Les arbitres ils sont au milieu du tapis, ils ont peur de prendre une décision parce que il y a tellement de règlements qui changent d'une Olympiade à l'autre. Et c'est enfin aujourd'hui moi je reconnais plus ma discipline.
Cyril,
juste pour terminer en fait, si tu veux le but c'est pour rendre plus spectaculaire et plus télévisuel. Et en fait, on constate complètement l'inverse. En fait, sur les championnats du monde, là, c'est une stat à vérifier, mais il y a au moins, je dirais, au moins 75% des combats qui vont au Golden Score, en fait. Donc ouais, aujourd'hui, ce que je comprends pas, et ma question elle est aujourd'hui, c'est, enfin, franchement, est-ce que pour vous, en fait, est-ce que vous trouvez ça normal aujourd'hui qu'une discipline comme le judo, en fait, on change son règlement à chaque Olympiade? Et je suis content que David soit là, et parce qu'en fait, moi, je comprends plus rien, en fait. Je comprends plus rien.
Ok, David Douillet a envie de réagir évidemment sur cette situation et sur ce communiqué très surprenant de la Fédé.
Oui, Cyril a mille fois raison. C'est-à-dire que on assiste depuis plus d'une décennie à, et Marc le disait dans son sport, et moi je vais dire exactement la même chose dans le mien, à une aseptisation de la discipline. On fait un sport de combat. Voilà. Et aujourd'hui, les golden scores, le nombre de golden scores le prouve. On est avec on est face à des athlètes qui savent plus trop comment ils vont attaquer, de quelle manière. Ils sont sur le reculoir. Ça bride les initiatives. Rien que sur la prise de garde, ce qu'on appelle vulgairement en japonais le kumikata, on l'a complètement aseptisé. Alors qu'à une certaine époque, il y avait une science du kumikata, une science de la prise de garde, une science du lâcher, etc., etc., qui déjà montrait un pré-combat déjà au niveau de la garde, et puis ensuite, il y avait un des deux qui donnait le taulier du combat, qui s'imposait et qui organisait son judo. Ça a quasiment disparu. Bon. Et puis ensuite, dans les techniques, voilà, parce que on a décidé que le judo était trop influencé par les techniques de lutte, notamment apportées par les athlètes des pays de l'Est, on a voulu supprimer tout, globalement tout ce qui se passe en dessous de la ceinture, sans caricature de ma part, mais bref, c'est un peu ça, voilà. Et là, on s'est rendu compte que des décisions comme celle de Teddy ou comme celle de la Française en finale par équipe, eh bien, pouvaient être discutables, voilà. Arrêtons d'aseptiser, arrêtons de mettre des règles pour faire plaisir et gardons l'essence même de notre discipline. C'est scandaleux. Aujourd'hui, moi, si je montais sur un tapis, je mettrais pas un pied devant l'autre. Je saurais pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comment il faut le faire, où il faut le faire, si j'ai le droit, j'ai pas le droit, etc. C'est une horreur absolue.
On n'y comprend plus rien.
Il faut stopper ça.
Et on ne comprend pas.
Il faut stopper cette hémorragie.
Et quelques secondes encore après, on terminera ce débat. On ne comprend plus rien et on ne sait pas pourquoi cette fédération avec ce patron. Alors, on se dit que ce patron, Marius Wieser, qui a été réélu à la tête de la Fédé, a été soutenu par les Russes et Teddy Riner a affronté un Russe. Donc, je ne veux pas faire théorie du complot, mais on se demande s'il a perçu des pressions pour envoyer un communiqué et pour essayer de jouer la
Fédé. Je ne sais pas, mais il me semble que le Russe en question, lui, connaissait cette règle et a dit qu'il n'y avait aucun souci là-dessus. Mais avant même qu'il y ait polémique, juste après le combat, en disant « Ouais, j'ai perdu, cette règle existe. »
Bon, bah, c'est ça, je ne l'ai pas vu, tu vois. Donc,
je l'ai vu.
Mais en fait,
c'est le monde du judo. Le monde du judo, c'est Miron et moi, parce que ce sont des passionnés, des hyper techniques. Moi, j'ai reçu des centaines d'images, des dizaines de vidéos, etc., en disant le poil de ceci, le machin, le pied, le truc, le machin, le bidule. Non, ce qui pollue le truc, c'est des règles qui deviennent absurdes. On perd l'essence même du combat et tout devient discutable et tout est à discuter maintenant. Donc c'est absurde, c'est complètement débile. Voilà, faut arrêter ça.
Et pour nous, Teddy Riner est champion du monde et ce pour la 11e fois. Merci beaucoup Cyril Marais d'avoir poussé ton coup de gueule. David Douillet aussi sur ce débat. Et à bientôt avec nous autour de la table pour les GG. On se retrouve dans quelques instants. La billetterie, le prix des places est-il en train de gâcher la fête des JO? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.
RMC Football. Samedi à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.